Chapitre 10. Le chapitre 10 des Actes, vu sous la perspective de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le chapitre 10 des Actes n'est pas simplement un récit montrant le processus du début de la mission auprès des gentils. Ce chapitre est un passage crucial montrant que l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est en aucun cas la propriété exclusive des Juifs, et comment le jugement final de salut de Dieu envers l'humanité est rendu. Dieu révèle clairement à travers cet événement historique pourquoi il accepte les gens sur la base de l'élimination du péché déjà achevé, plutôt que sur des règles humaines de purification. Actes, chapitre 10, versets 1 à 8, Corneille, le salut qui ne peut être atteint même par des actes pieux. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le chapitre 10 des Actes, versets 1 à 8, présente Corneille, le centenier de Césarée. C'était un homme pieux, craignant Dieu avec toute sa maison, faisant beaucoup d'aumônes au peuple et priant Dieu continuellement. Cependant, même une piété et des actes aussi remarquables de Corneille ne pouvaient pas fondamentalement mettre fin au problème du péché. Au lieu d'envoyer un ange pour lui ordonner de faire preuve d'un plus grand zèle, Dieu lui dit d'inviter Pierre à Joppé et d'entendre les paroles de l'Évangile. Cela montre que la piété humaine ne peut pas devenir le fondement du salut et que seul le fait d'entendre et de croire au fait accompli de l'Évangile est le chemin de la vie. Actes, chapitre 10, versets 9 à 16. La vision de Pierre, la fin des règles de purification et la nouvelle norme d'expiation. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchèrent de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Pendant qu'il priait sur le toit, Pierre a une vision du ciel s'ouvrant, et d'un objet contenant des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux du ciel descendant. Lorsque Pierre a répondu à la voix lui disant de se lever, de tuer et de manger, en disant « Car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur », Dieu déclare une seconde fois « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé ». L'essence de cette vision n'est pas simplement un changement dans les règles alimentaires. Il a proclamé une grande transition dans la méthode de salut. À savoir que maintenant la pureté d'une personne est jugée non pas par l'observance de règles légales ou par la lignée, mais uniquement par le fait de l'élimination du péché déjà accompli par le baptême et la croix de Jésus. Actes, chapitre 10, versets 17 à 23, la direction du Saint-Esprit, l'envoi de l'apôtre sur le terrain de l'Évangile accompli. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici, trois hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit, et il dit à ses hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est-ce le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer, et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Alors que Pierre se demandait en réfléchissant à la signification de la vision, le Saint-Esprit lui dit « Voici, trois hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Ce n'était pas une invitation à une discussion théologique, mais un envoi puissant du Saint-Esprit pour montrer comment l'évangile déjà accompli est appliqué au terrain réel appelé les gentils. Obéissant à cette voix du Saint-Esprit, Pierre part en voyage avec les hommes envoyés par Corneille. Actes chapitre 10, versets 24 à 33. La signification de la rencontre. Dieu qui prend les gens par le fait de l'expiation, non par l'apparence extérieure. Quand ils arrivèrent à Césarée le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. » Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Pierre, arrivé dans la maison de Corneille, confesse que ses préjugés théologiques ont été brisés, disant « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Ici, l'apparence extérieure signifie la nationalité, l'histoire religieuse ou la moralité de la vie. Le fait que Dieu ne regarde pas ses conditions humaines, mais ne prête attention qu'au fait de savoir si l'âme accepte le fait de l'élimination du péché qui a déjà été accompli par le ministère de Jésus-Christ, est confirmé par cette rencontre. Actes chapitre 10, versets 34 à 43, le cœur du sermon de Pierre, l'événement du salut qui a commencé par le baptême de Jésus. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre prêche l'essence de l'évangile à Corneille et à ceux qui sont rassemblés dans sa maison. Il dit « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée ?» après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché, et témoigne que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. La raison pour laquelle Pierre a mentionné le baptême de Jean en premier avant de parler de la croix et de la résurrection est que le jugement de la croix ne peut avoir d'effet que lorsque l'événement de Jésus prenant en charge les péchés du monde en recevant le baptême donné par Jean au fleuve Jourdain est présupposé. Actes chapitre 10, versets 44 à 46, le Saint-Esprit descendant pendant le sermon, la confirmation du salut inconditionnel. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Lorsque Pierre disait ces mots, le Saint-Esprit descend sur toutes les personnes entendant la parole, de sorte que les croyants circoncis qui sont venus avec Pierre sont étonnés de l'effusion du Saint-Esprit même sur les gentils. Ici, aucune circoncision, observance de la loi ou processus d'enregistrement religieux n'était inclus. Le Saint-Esprit est descendu au moment même où ils ont entendu et cru à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et c'était le témoignage puissant de Dieu que les gentils reçoivent également le même Saint-Esprit sans discrimination au sein du même évangile que les Juifs. Actes, chapitre 10, versets 47 à 48. La signification du baptême, une marque reconnaissant le salut déjà descendu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Pierre, qui a été témoin de la présence du Saint-Esprit, demande en retour disant, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» et ordonne de donner le baptême au nom de Jésus-Christ. Ici, le baptême n'est pas une condition pour recevoir le Saint-Esprit ou un moyen de laver les péchés. C'est une marque sainte par laquelle ceux qui ont reçu la confirmation par le Saint-Esprit de l'élimination du péché, déjà terminée par le baptême et la croix de Jésus, reconnaissent et confirment publiquement ce fait accompli du salut devant la communauté. En conclusion, le chapitre 10 des Actes proclame que Dieu ne distingue plus les gens par des règles ou des actes humains. La seule norme de pureté est uniquement l'élimination du péché accompli par le baptême et la croix de Jésus. Dieu n'a pas regardé les actes pieux de Corneille eux-mêmes, mais l'a appelé dans la grâce de l'expiation déjà accomplie par le ministère de Jésus. C'est exactement l'histoire réelle où l'évangile de l'eau et de l'esprit abat toutes les frontières entre les peuples et lie l'humanité en un seul. Un sermon de Paul Sijong. La parole du chapitre 10 des Actes, versets 1 à 48, rapporte le tournant crucial où l'Évangile a franchi la frontière des Juifs et a été appliqué de manière égale aux gentils. Le cœur de ce chapitre n'est pas une simple harmonie nationale, mais quelle est la méthode de salut désignée par Dieu et à qui et comment elle est témoignée? En regardant du point de vue de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous croyons et prêchons, le chapitre 10 des Actes n'est pas le début d'un nouvel Évangile, mais un grand événement où l'Évangile déjà accompli a brisé les préjugés humains et a été révélé au monde entier. À Césarée, il y avait un homme nommé Corneille, centenier de l'armée appelée la cohorte italienne. Il était pieux, craignant Dieu avec toute sa maison, faisant beaucoup d'aumônes au peuple et priant Dieu continuellement, mais Dieu ne lui a pas dit que c'était déjà suffisant, mais a envoyé un ange et lui a ordonné d'inviter Pierre. Cela montre que la piété et le zèle humain ne peuvent jamais remplacer le salut et nous éveille au fait que peu importe combien de bonnes actions sont accumulées, le problème du péché ne peut être résolu que par l'évangile envoyé par Dieu. Lorsque Pierre est monté sur le toit pour prier, il a vu une vision du ciel s'ouvrant et d'un objet comme une grande nappe descendant. Et à l'intérieur, divers quadrupèdes de la terre, des reptiles et des oiseaux du ciel étaient mélangés. Lorsque Dieu a dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange », Pierre a refusé, disant « Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur ». Cependant, Dieu a parlé une seconde fois. « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé ». Cette vision est une déclaration que, allant au-delà des règles alimentaires, la norme de pureté a maintenant été complètement déplacée de la loi de l'homme vers le ministère de Jésus-Christ. Entrant dans la maison de Corneille, Pierre a confessé « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. » Pierre a proclamé l'universalité de l'Évangile disant « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Cela ne signifie pas que l'on reçoit le salut par des actes, mais c'est une reconnaissance que l'évangile de Jésus-Christ est ouvert à toutes les nations sans discrimination. Le sermon de Pierre qui suit résume clairement le ministère de Jésus-Christ. Il a témoigné de la vie publique de Jésus disant « Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » en particulier le passage « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée ?» après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché, présuppose le ministère de l'eau où Jésus a pris en charge les péchés du monde en recevant le baptême de Jean au fleuve Jourdain. De plus, à travers le témoignage de la résurrection selon lequel ils l'ont tué en le pendant au bois, mais que Dieu l'a ressuscité le troisième jour et l'a fait apparaître, il a prêché le Christ qui a accompli le ministère de l'eau, du sang et de l'esprit. Lorsqu'il a atteint la conclusion selon laquelle tous les prophètes lui rendent également témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés, une histoire surprenante s'est produite. Lorsque Pierre disait ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur toutes les personnes entendant la parole, ce qui montre que le Saint-Esprit n'est pas venu pour confirmer la préparation ou la qualification d'une personne, mais est celui qui est venu pour confirmer la véracité de l'évangile proclamé. Les croyants circoncis qui sont venus avec Pierre ont été étonnés à cause de l'effusion du Saint-Esprit même sur les gentils. Alors Pierre dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Le baptême d'eau qui leur a été donné n'était pas une condition pour laver les péchés, mais une confession de foi de joie, faite par ceux qui ont déjà reçu l'élimination du péché en entendant et en croyant à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le chapitre 10 des Actes proclame que la pureté n'est pas une distinction de l'homme mais l'accomplissement de Dieu et confirme que cet évangile, selon lequel Jésus a pris en charge nos péchés au fleuve Jourdain et a été jugé sur la croix, est la seule vérité pour tous les peuples. Regardez la parole du chapitre 10 des Actes, versets 44 à 48, du point de vue de l'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par Paul Sijong. La parole du chapitre 10 des Actes, versets 44 à 48, est un texte crucial montrant par quel principe le salut des gentils est établi. Cette scène, allant au-delà d'un simple récit d'expérience du Saint-Esprit, révèle à qui et dans quel ordre le salut déjà accompli par Dieu est témoigné. Lorsque nous lisons ce texte du point de vue de l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons, il devient clair que la descente du Saint-Esprit n'est pas le résultat de conditions humaines ou de cérémonies religieuses, mais le témoignage immédiat de Dieu à la véracité de l'évangile proclamé. Lorsque Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur toutes les personnes entendant la parole, ce qui montre que le Saint-Esprit n'a attendu aucune cérémonie ou décision humaine. Le Saint-Esprit est descendu lorsqu'ils ont entendu l'évangile prêché par Pierre, c'est-à-dire la parole selon laquelle Jésus-Christ a pris en charge les péchés du monde en recevant le baptême au fleuve Jourdain et a accompli le salut en recevant le jugement de ses péchés sur la croix. Le Saint-Esprit répond toujours à cet évangile, et la descente du Saint-Esprit n'est pas un acte visant à vérifier l'état de préparation d'une personne, mais le sceau de Dieu qui confirme le fait que le salut déjà accompli est vrai. Les fidèles circoncis, qui étaient devenus avec Pierre, qui ont observé cette scène, ont été étonnés à cause de l'effusion du Saint-Esprit même sur les gentils. La raison pour laquelle ils étaient étonnés était que les conditions de la loi, la circoncision et les frontières nationales auxquelles ils s'étaient fermement accrochés se sont effondrées, plutôt que la puissance du Saint-Esprit elle-même. Dieu a révélé sans discrimination que la norme du salut ne réside pas dans les règles humaines, mais uniquement dans la foi qui croit au ministère de Jésus-Christ. C'est un événement qui a proclamé que le principe de salut désigné par Dieu s'applique de manière égale aux Juifs et aux gentils. Entendre les gens de la maison de Corneille parler en langue et glorifier Dieu est la réaction inévitable qui a éclaté de l'esprit libéré de ceux dont le problème du péché a été résolu. S'il reste ne serait-ce qu'un peu de péché dans le cœur, le Saint-Esprit ne peut jamais descendre, mais lorsque l'Évangile est prêché selon lequel les péchés ont été transférés par le baptême de Jésus et que ces péchés ont été jugés par le sang de la croix, le Saint-Esprit témoigne immédiatement de cette vérité. Par conséquent, parler en langue et louer peuvent être considérés comme le résultat de la joie savourée par les saints qui ont reçu le salut accompli, plutôt que comme le but de la présence du Saint-Esprit. Ensuite, Pierre a dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Actes, chapitre 10, versets 47 à 48. Le point auquel il faut prêter attention ici est l'ordre dans lequel le baptême d'eau a été donné après la descente du Saint-Esprit. Cela confirme que le baptême d'eau n'est pas une condition pour laver les péchés. mais une marque par laquelle ceux qui ont déjà reçu l'élimination du péché par le baptême et la croix de Jésus confessent et confirment publiquement ce fait accompli du salut devant la communauté. Le baptême d'eau accompli dans la maison de Corneille n'était pas un moyen d'obtenir le salut, mais la réponse appropriée de ceux qui avaient reçu le salut. À travers cet événement, Dieu a clairement indiqué qu'il accorde le même évangile, le même Saint-Esprit et le même salut à tous les peuples, qu'ils soient juifs ou gentils, ou personnes pieuses ou pécheurs. Le Saint-Esprit ne regarde pas les antécédents sociaux ou l'histoire religieuse d'une personne, mais ne regarde que la véracité de l'évangile. Lorsque le fait que le problème du péché a été éternellement terminé par le baptême et la croix de Jésus-Christ est proclamée, le Saint-Esprit descend sans discrimination sur ceux qui reçoivent cette parole avec foi et justifie leurs âmes. En conclusion, le chapitre 10 des Actes, versets 44 à 48, nous éveille au fait que le Saint-Esprit n'est pas celui qui commence nouvellement le salut, mais celui qui témoigne du salut déjà accompli. L'évangile de l'eau et de l'esprit est basé sur le ministère parfait de Dieu, non sur la qualification d'une personne. Cette vérité, selon laquelle Jésus-Christ a pris en charge nos péchés au fleuve Jourdain et a reçu le jugement de ses péchés sur la croix, et que le Saint-Esprit témoigne de ce fait dans le cœur de ceux qui croient, agit de la même manière aujourd'hui. Là où cet évangile est proclamé, personne n'est exclu, et seule la grâce de... Questions et réponses sur le chapitre 10 des Actes. Première, Dieu est-il celui qui prépare ceux qui recevront le salut devant Dieu, même parmi les personnes religieuses du monde? En regardant la révélation de la Bible, Dieu n'est pas décrit comme celui qui limite le salut, en se basant uniquement sur un groupe spécifique ou sur une affiliation religieuse extérieure. Dieu a dit qu'il veut que tous les hommes parviennent au salut. Cela inclut la signification que même les personnes à l'intérieur des religions du monde ne sont pas exclues de l'objet du salut de Dieu. Même si elles sont extérieurement à l'intérieur d'un système religieux, Dieu connaît celles qui cherchent la vérité même parmi elles. En regardant les Actes des apôtres, Corneille n'était pas une personne religieuse juive, mais c'était une personne qui craignait Dieu. Dieu ne l'a pas simplement laissé tel qu'il était, mais a envoyé Pierre et lui a fait entendre l'évangile. C'est une scène où Dieu a connecté l'évangile à celui dont il avait déjà préparé le cœur. Même s'ils ressemblent à des personnes à l'intérieur d'une autre religion aux yeux des humains, Dieu regarde le centre et peut les conduire sur le chemin du salut. En même temps, la Bible indique clairement que le salut ne s'accomplit pas par un simple zèle religieux ou par la moralité. Peu importe l'ampleur du zèle religieux, s'ils ne connaissent pas l'évangile, ils ne peuvent pas atteindre l'assurance du salut. Par conséquent, Dieu fait entendre l'évangile à ceux qui sont préparés. Dans les Romains, il est dit « Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» Romains, chapitre 10, verset 14, soulignant la nécessité de la propagation de l'évangile. Cela signifie que pendant que Dieu prépare une personne, il connecte simultanément l'évangile à travers l'Église. En conclusion, Dieu est celui qui connaît ceux qui seront sauvés même parmi les personnes à l'intérieur des religions du monde et peut travailler envers elles. Cependant, ce salut est finalement accompli à travers l'Évangile. Dieu n'est pas quelqu'un qui se contente d'attendre, mais est le souverain qui leur fait rencontrer l'Évangile et réaliser la vérité le moment venu. Ce n'est pas l'affiliation extérieure humaine, mais la foi devant l'Évangile qui est à la norme finale. Deuxième, les anges envoyés par Dieu font-ils l'œuvre de protéger le peuple de Dieu même à l'ère du Nouveau Testament ? Le témoignage selon lequel Dieu travaille à travers les anges, même à l'ère du Nouveau Testament, apparaît clairement dans la Bible. Les Hébreux expliquent dans les anges comme des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Cela contient la signification que le ministère des anges n'est pas simplement limité à l'ère de l'Ancien Testament, mais se poursuit au sein de l'histoire du salut de Dieu, même à l'ère du Nouveau Testament. En regardant les Actes des apôtres, la scène où un ange a libéré les apôtres, enfermés en prison, est rapportée. Même lorsque Pierre était enfermé en prison, un ange est apparu et l'a fait sortir. Ces événements montrent que Dieu, lorsque c'était nécessaire, a utilisé des anges pour protéger son propre peuple et lui faire poursuivre le ministère de l'Évangile. En même temps, ce n'est pas une promesse qu'il protège toujours miraculeusement dans toutes les situations. Certains apôtres ont été secourus, mais certains apôtres ont été martyrisés. Cela montre le fait que le ministère des anges est également sous la souveraineté de Dieu. Un ange n'est pas un être qui agit de manière indépendante, mais un être qui exécute le commandement de Dieu. Par conséquent, même à l'ère du Nouveau Testament, si Dieu le veut, il peut protéger et aider par l'intermédiaire des anges. Cependant, la Bible n'enseigne pas aux croyants à rechercher ou à s'appuyer sur les anges. Le centre est toujours sur Dieu et Christ. Et les anges ne sont que des outils travaillant au sein de la providence invisible de Dieu. En conclusion, même à l'ère du Nouveau Testament, Dieu peut aider son propre peuple par l'intermédiaire des anges, et la Bible témoigne de ce fait. Cependant, ce ministère n'est pas un domaine de recherche d'expérience visible, mais une question relevant de la providence souveraine de Dieu. La confiance du croyant doit être placée en Dieu qui envoie les anges, et non sur les anges eux-mêmes. Troisième, puisque le Saint-Esprit habite dans le cœur du serviteur de Dieu qui croit en l'évangile de l'eau et de l'Esprit, s'il réalise et témoigne de la volonté de Dieu à travers la parole de Dieu, la parole qu'il prêche devient-elle la parole même de Dieu ? Cette question est très importante. C'est parce que le problème de savoir si cette parole devient directement la parole de Dieu lorsque le serviteur de Dieu, en qui habite le Saint-Esprit, prêche la parole, est un problème qui traite de l'autorité de l'Église et de l'essence de la révélation. La Bible déclare clairement que le Saint-Esprit habite dans le croyant et le guide dans la vérité. Elle déclare également clairement que la parole enregistrée par l'inspiration du Saint-Esprit est la Bible. Cependant, il y a quelque chose qui doit être distingué ici. La Bible est la révélation achevée de Dieu et son autorité réside dans la parole enregistrée. Même si le serviteur de Dieu aujourd'hui réalise et prêche la parole au milieu de la direction du Saint-Esprit, cette prédication en elle-même ne devient pas une nouvelle révélation, ni n'a la même autorité absolue que la Bible. Même les apôtres n'ont pas placé leurs enseignements au-dessus de l'Évangile. Au contraire, ils en ont fait la norme pour savoir s'ils s'alignaient sur l'Évangile déjà donné. Paul a même dit que si quelqu'un prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, et a placé la norme de l'évangile non pas sur lui-même, mais sur la révélation donnée par Dieu. Cela montre qu'aucun serviteur ne peut se tenir au-dessus de la Bible. Lorsque le serviteur en qui habite le Saint-Esprit prêche la parole, si cette parole s'aligne sur la vérité de la Bible et révèle l'essence de l'évangile, cela peut être un sermon qui explique correctement la volonté de Dieu. Cependant, cette autorité vient de la Bible et ne vient pas du prédicateur en tant qu'individu. Le prédicateur est un canal délivrant la vérité, non la source de la vérité. Si une personne prétend « puisque le Saint-Esprit est en moi, ce que je dis est la parole même de Dieu », à ce moment-là, elle se trouve dans une position dangereuse. La Bible enseigne à discerner les esprits et nous dit d'éprouver si tous les enseignements s'alignent sur la parole enregistrée. C'est un avertissement pour ne pas placer même un serviteur qui semble pieux dans une position d'inhérence absolue. En conclusion, le serviteur de Dieu en qui habite le Saint-Esprit peut réaliser et prêcher la volonté de Dieu. Cependant, la norme par laquelle la parole qu'il prêche est reconnue comme la parole de Dieu est de savoir si elle s'aligne sur la Bible. L'autorité ne vient pas de l'homme, mais vient de la parole enregistrée de Dieu. Un véritable serviteur est une personne qui ne s'élève pas elle-même, mais confirme humblement que la parole qu'elle prêche se tient sur la vérité de la Bible. Quatrième, si l'on dit que le Saint-Esprit n'est pas dans le cœur de celui qui témoigne de la parole dans l'Église de Dieu, la parole qu'il prêche devient-elle la parole de Dieu ? La Bible ne place pas l'autorité de la parole de Dieu sur la condition de l'homme, mais la place sur Dieu lui-même. Par conséquent, en supposant qu'une certaine personne n'a pas le Saint-Esprit dans son cœur, on ne peut pas déterminer de manière définitive si la parole qu'elle prêche est la parole de Dieu ou non. La parole de Dieu est essentiellement une révélation qui est venue de Dieu et son autorité réside dans la Bible enregistrée. Le prédicateur n'est qu'un outil délivrant cette parole, non la source de la parole. Cependant, en même temps, la Bible montre que Dieu peut utiliser même des outils incomplets. Même à travers une personne dont le centre n'est pas droit comme Balaam dans l'Ancien Testament, Dieu a déclaré sa propre volonté. Même dans ce cas, l'autorité ne venait pas de l'homme, mais il y avait de l'autorité parce que Dieu a parlé. Par conséquent, le cœur n'est pas la condition intérieure du prédicateur, mais si le contenu qu'il prêche s'aligne sur la vérité de la Bible. Si une personne qui n'a pas le Saint-Esprit dans son cœur traite la Bible simplement comme une connaissance ou un travail et prêche ses propres pensées ou des enseignements déformés, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible met en garde contre les faux enseignants et ordonne de discerner ceux qui corrompent l'Évangile. La parole ne peut être reconnue comme la parole de Dieu que lorsqu'elle s'aligne sur la vérité enregistrée. En conclusion, l'autorité de la parole ne découle pas automatiquement de la condition spirituelle du prédicateur. Le serviteur en qui habite le Saint-Esprit a une plus grande possibilité de discerner et de prêcher la vérité plus correctement. Mais la norme finale est toujours la Bible. Ce n'est pas parce qu'une personne sans le Saint-Esprit parle que cela signifie nécessairement que ce n'est pas la parole de Dieu. Cela ne peut être accepté comme la parole de Dieu que lorsque cela s'aligne sur la parole enregistrée. L'Église ne doit pas absolutiser l'homme, mais doit éprouver tous les enseignements par la norme de la Bible.